Bienvenue à tous dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un débat qui secoue le Maroc en ce moment, la réforme du code de la famille, ou la Moudawana, comme on l'appelle ici.
Un sujet brûlant.
Ah oui, ça discute beaucoup. Et pour vraiment comprendre tous les enjeux, on a choisi de se baser sur un guide vraiment utile, le livret d'Adnan Benchakroun. Les 18 points du projet du nouveau code de la famille. Pour et contre.
Un excellent choix, vraiment. Ce livret, c'est une mine d'or. Il nous plonge dans le vif du sujet avec tous les arguments pour et contre chaque proposition de réforme.
Exactement. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, vous donner à vos chers auditeurs toutes les clés pour comprendre ce débat et vous faire votre propre opinion.
On va décortiquer tout ça ensemble avec un regard objectif pour que vous puissiez saisir toutes les nuances de cette réforme. Car il ne s'agit pas seulement de lois. On parle d'une véritable transformation de la société marocaine.
Tout à fait. Et avant de plonger dans le détail, il faut d'abord rappeler ce qu'est la Moudawana, son histoire, et pourquoi elle est si importante au Maroc.
Absolument, la Moudawana, c'est bien plus qu'un simple code juridique, c'est la base de la famille au Maroc. Elle régit le mariage, le divorce, la filiation, les droits et devoirs des époux, l'héritage. Enfin, tout ce qui touche à la sphère familiale.
Et on peut dire que cette Moudawana, elle a déjà connu une grande réforme en 2004, sous l'impulsion du roi Mohamed VI. Une réforme qui a été acclamée à l'époque comme une avancée majeure pour les droits des femmes.
Ah oui, la réforme de 2004, c'était un tournant. On a introduit des notions de justice et d'égalité qui n'existaient pas avant dans le code de la famille.
Exactement. Mais cette réforme a aussi soulevé des débats, des résistances, parce qu'elle touchait à des valeurs traditionnelles très ancrées dans la société marocaine.
Bien sûr, c'est normal, on touche au cœur de la société.
Et c'est ce qui rend la réforme actuelle encore plus sensible, parce que le Maroc, aujourd'hui, il est tiraillé entre modernité et tradition, entre ouverture sur le monde et respect de son identité culturelle et religieuse.
Exactement. Un vrai numéro d'équilibriste pour les législateurs qui doivent concilier des aspirations parfois contradictoires.
C'est ça. Et c'est là que le livret de Benchakroun devient vraiment intéressant. Il nous donne une grille de lecture précise pour analyser cette réforme. Il décortique chaque proposition avec les arguments pour et contre.
C'est ça, une analyse complète qui permet de vraiment saisir les enjeux, les tensions et les espoirs que cette réforme suscite.
Absolument. Et pour bien commencer, on va s'attaquer au premier point abordé par Benchakroun. Le partage des droits de garde pendant le mariage et après le divorce.
Là, on touche un point vraiment sensible. Le rôle des parents dans la société marocaine est en pleine évolution et cette proposition pose beaucoup de questions.
Oui, parce qu'il ne s'agit pas juste de partager la garde des enfants, mais de repenser le modèle familial traditionnel où la mère était souvent la seule responsable de l'éducation des enfants.
Exactement. C'est une vraie révolution dans la façon de concevoir la parentalité avec cette idée que les deux parents doivent être impliqués de manière égale dans l'éducation des enfants.
Un grand changement qui s'aligne sur les conventions internationales sur les droits de l'enfant, mais qui ne va pas sans soulever des craintes et résistances.
Bien sûr, certains voient ça comme une menace pour la famille traditionnelle. Une source de conflit entre parents, d'autres craignent que ça aille à l'encontre de certains principes religieux qui donnent au père un rôle de chef de famille.
Des arguments importants à prendre en compte, bien sûr. Mais on ne peut pas ignorer les aspirations à plus d'égalité et justice qui sont derrière cette proposition. Il s'agit aussi de reconnaître le rôle essentiel des pères dans l'éducation des enfants.
Oui, c'est ça, trouver un équilibre. C'est ce qui rend ce débat si passionnant, on n'est pas dans le manichéisme. Il faut trouver une voie qui permette à la société marocaine d'évoluer tout en préservant ses valeurs.
Et pour vous aider à vous forger votre propre opinion, on va maintenant plonger dans le détail des arguments. Pour et contre ce partage de la garde, on va analyser les points forts et les points faibles de chaque argument pour bien comprendre les enjeux.
On y va. Accrochez-vous, on entre dans le vif du sujet.
On commence par les arguments en faveur du partage de la garde. Benchakroun met en avant plusieurs points clés, et le premier, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. L'idée, c'est que l'enfant a besoin de ses deux parents, même après une séparation, pour bien grandir.
Un argument fort qui s'appuie sur des études qui montrent l'importance de la présence des deux parents pour le bien-être psychologique et émotionnel de l'enfant.
Oui, et Benchakroun insiste sur le fait que cette présence ne doit pas se limiter à un simple droit de visite, mais impliquer une participation active des deux parents à l'éducation et aux décisions importantes concernant l'enfant.
Et c'est là qu'on arrive au deuxième argument en faveur du partage de la garde. L'égalité entre les parents, l'idée c'est que les deux parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers leur enfant, quelle que soit leur situation matrimoniale.
Un argument qui s'inscrit dans une logique d'égalité entre les sexes, de reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans la société marocaine, parce qu'il ne s'agit pas seulement de partager la garde des enfants, mais de partager les responsabilités familiales, de permettre aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Tout à fait, c'est un point crucial car la réforme de la Mudawana ne se limite pas à la sphère familiale, elle a des implications plus larges sur la place des femmes dans la société, leur accès à l'emploi, à l'éducation, à la vie politique.
Et c'est ce qui rend cette réforme si importante, si passionnante à analyser. On voit qu'il ne s'agit pas seulement de lois, mais d'une véritable transformation de la société marocaine.
Une transformation qui suscite des espoirs, mais aussi des inquiétudes. Il ne faut pas oublier les arguments contre le partage de la garde qui sont tout aussi importants à prendre en compte.
Oui, bien sûr. On va maintenant se pencher sur ces arguments en commençant par celui qui revient le plus souvent. La crainte de fragiliser la famille traditionnelle. Certains craignent que le partage de la garde ne crée des tensions, des conflits entre parents, au détriment de l'harmonie familiale.
C'est une crainte légitime qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le divorce est souvent une épreuve douloureuse et il est important de s'assurer que le partage de la garde ne vienne pas aggraver les tensions entre parents.
Oui, et Ben Chakroun souligne que ce risque de conflit est d'autant plus important dans une société où le modèle familial traditionnel est encore très ancré, où le père est souvent perçu comme le chef de famille, celui qui détient l'autorité.
C'est un point important à prendre en compte, car il ne s'agit pas d'imposer un modèle occidental de la famille, mais de trouver un modèle qui corresponde à la réalité de la société marocaine, à ses valeurs, à ses traditions.
Et c'est là que la question de la religion intervient, car certains craignent que le partage de la garde n'aille à l'encontre des principes de l'islam.
Un argument souvent avancé, mais qui mérite d'être nuancé, car l'islam n'interdit pas le partage de la garde. Il prévoit même des mécanismes pour protéger les droits des deux parents et de l'enfant en cas de divorce.
Oui, et Ben Chakroun rappelle que la réforme de la Mudawana s'inscrit dans le cadre de la constitution marocaine qui garantit l'égalité entre les sexes et la protection des droits de l'enfant.
Un rappel important car il montre que cette réforme ne se fait pas en dehors du cadre légal et religieux du pays, mais qu'elle s'inscrit dans une logique de modernisation, d'adaptation aux réalités d'une société en constante évolution.
Et on voit bien que ce premier point, le partage de la garde des enfants, est déjà un sujet complexe qui soulève des questions fondamentales sur le rôle des parents, l'égalité entre les sexes, la place de la religion dans la société marocaine.
Un débat passionnant qui nous montre que la réforme de la Mudawana ne se limite pas à des questions juridiques, mais qu'elle touche à l'identité même du Maroc, à ses valeurs, à son avenir.
Et on va continuer à explorer ce débat dans les prochaines parties de notre Deep Dive, en analysant point par point les 18 propositions de Ben Chakroun. Alors restez avec nous, chers auditeurs, car on a encore beaucoup de choses à découvrir ensemble.
Bon, on reprend notre exploration de la Mudawana avec un point qui touche vraiment l'avenir du Maroc. La fixation de l'âge légal du mariage à 18 ans, avec une possible exception à 17 ans.
Une proposition qui suit la tendance mondiale de lutte contre le mariage des enfants Ben Chakroun souligne que le mariage précoce a des conséquences désastreuses sur la santé, l'éducation et l'avenir des jeunes, surtout pour les filles.
Ah oui, c'est clair, les études et les rapports internationaux sont unanimes sur ce point. Le mariage des enfants, c'est une violation des droits fondamentaux, une forme d'exploitation qui prive les jeunes de leur enfance et de leur liberté.
Et pourtant, cette proposition ne fait pas l'unanimité au Maroc. Certains voient ça comme une attaque contre les traditions. Une imposition de normes occidentales qui ne tiennent pas compte des réalités locales.
Oui, l'argument de la tradition revient souvent pour justifier le mariage précoce. On entend que c'est une pratique ancestrale qui fait partie de la culture marocaine.
Ben Chakroun rappelle que la tradition n'est pas figée, qu'elle évolue avec le temps, et que certaines traditions, comme le mariage des enfants, sont néfastes et doivent être combattues.
Oui, exactement. La réforme ne veut pas effacer les traditions, mais les adapter aux exigences d'une société moderne qui respecte les droits de tous.
Et puis parfois, l'argument de la tradition cache d'autres motivations moins avouables, comme le contrôle de la sexualité des filles, la préservation de l'honneur familial, la peur de la déviance.
Des motivations inacceptables dans une société qui se veut juste et égalitaire, la réforme doit permettre aux jeunes filles et garçons de choisir librement leur avenir.
Passons maintenant à un autre point important, la responsabilité familiale partagée entre les deux époux, une proposition qui veut rompre avec le modèle traditionnel où l'homme est le chef de famille, le seul responsable de subvenir aux besoins du foyer.
Oui, on attaque là le cœur du débat sur l'égalité entre les sexes, la répartition des rôles dans le couple. Ben Chakroun insiste sur l'idée que la famille moderne, c'est une famille où chacun contribue au bien-être de tous.
Une vision qui correspond à l'évolution de la société marocaine où de plus en plus de femmes travaillent et participent à la vie économique du pays.
Exactement. La réforme doit tenir compte de cette nouvelle réalité, reconnaître la contribution des femmes au foyer et leur donner le moyen de concilier travail et famille.
Mais cette proposition ne passe pas comme une lettre à la poste. Il y a des résistances de la part de ceux qui défendent le modèle traditionnel où l'homme est le chef et la femme la gardienne du foyer.
Oui, certains ont peur que cette réforme crée une confusion des rôles, un déséquilibre dans le couple d'autres. Ils voient une influence occidentale, une menace pour les valeurs islamiques.
Ben Chakroun rappelle que l'islam n'impose pas un modèle unique de famille, qu'il encourage la coopération et la solidarité entre époux, et que la réforme s'inscrit bien dans le cadre de la Constitution, qui garantit l'égalité entre les sexes.
Tout à fait, il faut trouver un modèle de famille qui réponde aux aspirations du Maroc d'aujourd'hui, un modèle qui respecte les droits et les libertés de chacun, tout en préservant les valeurs fondamentales du pays.
On arrive maintenant à un point qui fait beaucoup de bruit. La polygamie rendue pratiquement impossible. Ben Chakroun explique que la réforme veut limiter drastiquement les conditions de la polygamie, en l'autorisant seulement dans des cas exceptionnels avec l'accord de la première épouse et sous le contrôle d'un juge.
Une proposition qui vise à protéger les droits des femmes, à éviter les abus et les injustices liées à la polygamie. Ben Chakroun rappelle que la polygamie est souvent source de conflits et de souffrances pour les femmes et les enfants.
Et il rappelle que le Coran, même s'il autorise la polygamie, la soumet à des conditions très strictes, notamment l'obligation de traiter toutes les épouses avec justice et équité, ce qui est rarement le cas dans la pratique.
C'est vrai, souvent, la polygamie sert à asseoir la domination masculine, à contrôler la sexualité de femmes, à perpétuer des rapports de pouvoir inégaux dans le couple.
Mais cette proposition se heurte à une forte opposition de la part de ceux qui défendent la polygamie comme un droit religieux, une liberté individuelle.
Oui, certains arguments religieux sont avancés pour justifier la polygamie, mais Ben Chakroun rappelle que la religion ne doit pas servir à opprimer les femmes, à les priver de leurs droits.
Et il souligne que la réforme vise à moderniser le code de la famille, à l'adapter aux exigences d'une société qui aspire à plus d'égalité et de justice pour tous.
On passe maintenant à un autre point délicat. La réforme de la répudiation, Ben Chakroun explique que la proposition veut renforcer le contrôle judiciaire sur la répudiation pour protéger les droits des femmes en cas de divorce.
Il s'agit de mettre fin à la pratique de la répudiation unilatérale, qui permettait à l'homme de divorcer sans motif valable et sans laisser de recours à sa femme.
Une pratique inacceptable, une violation flagrante des droits des femmes, une injustice qu'on ne peut plus tolérer dans une société moderne.
Ben Chakroun souligne que la réforme veut instaurer une procédure de divorce plus équitable, qui protège les droits des deux, et surtout ceux des femmes.
Exactement, il faut garantir aux femmes un accès à la justice, leur permettre de faire valoir leurs droits et les protéger contre les abus.
Mais cette proposition ne plaît pas à tout le monde, notamment ceux qui défendent la répudiation comme un droit religieux, une prérogative masculine.
On entend des arguments religieux pour justifier la répudiation unilatérale, mais Ben Chakroun rappelle que le Coran encourage la conciliation et le dialogue avant de recourir au divorce et qu'il n'autorise la répudiation que dans des cas bien précis.
Oui, il insiste sur le fait que la réforme ne veut pas supprimer la répudiation, mais l'encadrer, la soumettre à un contrôle judiciaire et garantir les droits des deux parties.
On passe maintenant à un point qui concerne directement les enfants. Le renforcement des droits des mères divorcées, Ben Chakroun explique que la proposition veut garantir aux mères la garde de leurs enfants, même si elles se remarient.
L'objectif, c'est de protéger l'intérêt de l'enfant en lui assurant la stabilité et la continuité affective.
Ben Chakroun rappelle que les enfants ont besoin de leur mère, même après un divorce, et que la garde des enfants ne doit pas devenir une arme dans les conflits de couple.
Mais là encore, il y a des résistances de la part de ceux qui craignent que les mères divorcées abusent de leur droit de garde, qu'elles empêchent les pères de voir leurs enfants.
Ben Chakroun rappelle que la réforme prévoit des mécanismes pour garantir le droit de visite des pères et que les juges doivent toujours privilégier l'intérêt de l'enfant.
Et il insiste sur le fait que la garde ne doit pas être attribuée en fonction du sexe du parent, mais en fonction de sa capacité à répondre aux besoins de l'enfant.
On passe à un point qui touche à la sécurité matérielle des enfants. La garantie d'un logement pour l'enfant sous garde, Ben Chakroun, explique que la proposition veut assurer aux enfants un toit, un environnement stable, même en cas de séparation des parents.
Une proposition qui paraît évidente, mais qui soulève des débats, notamment sur la question du financement de ce logement.
Oui, certains craignent que cette mesure coûte trop cher aux parents, surtout aux pères, qui doivent souvent verser une pension alimentaire.
Ben Chakroun nous rappelle que la réforme prévoit des mécanismes pour garantir le paiement de la pension alimentaire et que l'État doit aider les familles en difficulté à se loger.
Et il insiste sur le fait que la priorité doit être donnée à l'enfant qui a droit à un logement décent et à un environnement stable.
On continue notre exploration avec un point qui touche à la liberté de mouvement des enfants. Le droit pour les mères de voyager à l'étranger avec leurs enfants sans autorisation du père.
Une proposition qui veut garantir l'égalité entre les parents et reconnaître le droit des mères de prendre des décisions pour leurs enfants.
Ben Chakroun souligne que les mères ne doivent pas être des citoyennes de seconde zone, qu'elles ont le droit de voyager avec leurs enfants comme les pères.
Mais cette proposition inquiète certains qui craignent que les mères abusent de ce droit et enlèvent leurs enfants à l'étranger.
Benchakoun rappelle que la réforme prévoit des garde-fous pour éviter les abus, notamment l'obligation de prévenir le père du voyage et de garantir le retour au Maroc.
Et il rappelle que la liberté de mouvement est un droit fondamental qui ne doit pas être limité sans raison valable.
On passe maintenant aux aspects financiers du divorce. L'établissement de critères pour calculer la pension alimentaire.
L'idée, c'est d'être plus transparent et plus juste dans la fixation de la pension alimentaire en définissant des critères clairs basés sur les revenus des parents et les besoins de l'enfant.
Benchakoun insiste sur le fait que la pension alimentaire ne doit pas être un moyen de pression ou de chantage, mais qu'elle doit être calculée de manière objective.
Mais cette proposition ne fait pas que des heureux. Certains craignent que ces critères ne tiennent pas compte des situations particulières, des cas complexes.
Mais Jacques, on rappelle que la réforme permet de déroger aux critères si la situation le justifie et que les juges doivent toujours prendre en compte l'intérêt de l'enfant.
L'objectif n'est pas de punir les pères, mais de garantir aux enfants un niveau de vie décent.
On aborde maintenant la transmission du patrimoine, la possibilité de donner des biens aux héritiers de leur vivant.
Une proposition qui veut donner plus d'autonomie aux parents, leur permettre de transmettre leur patrimoine à leurs enfants avant leur décès.
Benchakoun souligne que ça peut permettre aux parents d'aider leurs enfants à se lancer dans la vie, à financer leurs études, à créer une entreprise.
Mais certains ont peur que ça crée des conflits entre frères et sœurs, que les parents ne soient pas toujours justes dans la répartition de leurs biens.
Benchakoun rappelle que la réforme prévoit des garde-fous pour éviter les abus, notamment l'obligation de respecter la part des héritiers.
C'est une question de liberté pour les parents, tout en protégeant les droits des héritiers.
On passe à un point qui touche à la reconnaissance du travail domestique, la valorisation du travail de l'épouse au foyer.
Une proposition qui veut reconnaître la contribution des femmes au foyer, leur donner une valeur économique et les protéger en cas de divorce.
Oui, Benchakoun souligne que le travail domestique, c'est un vrai travail qui contribue au bien-être de la famille et qui doit être reconnu et valorisé.
Mais ça pose des questions complexes. Comment évaluer ce travail? Comment le comparer au travail salarié?
Des questions difficiles, sans réponse facile.
La réforme prévoit de faire appel à des experts pour évaluer le travail domestique et les juges doivent tenir compte de tous les éléments pour fixer la compensation financière due à l'épouse en cas de divorce.
La reconnaissance du travail domestique, c'est une question de justice sociale, de respect pour le travail des femmes.
On passe maintenant au couple mixte. La possibilité de faire des dons et des testaments entre époux de religions différentes.
Une proposition qui veut simplifier la vie des couples mixtes, leur donner plus de liberté dans la gestion de leur patrimoine.
Benchakoun souligne que les couples mixtes ne doivent pas être pénalisés par leurs différences de religion, qu'ils doivent avoir les mêmes droits que les autres.
Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Certains craignent que ça crée des conflits entre familles, que ça porte atteinte aux principes religieux.
Benchakoun rappelle que la réforme s'inscrit dans le cadre de la Constitution qui garantit la liberté de conscience et de religion.
Cette mesure veut respecter la diversité du Maroc, promouvoir la tolérance et le vivre ensemble.
On aborde maintenant la formalisation des fiançailles, la possibilité de consigner les fiançailles.
Une proposition qui veut protéger les personnes engagées, surtout les femmes, en cas de rupture abusive.
Benchakoun souligne que les fiançailles sont un engagement sérieux qui doit être encadré par la loi pour éviter les abus.
Mais certains craignent que ça transforme les fiançailles en un contrat froid, que ça dénature la nature même des fiançailles.
Benchakoun rappelle que la réforme prévoit de consigner les fiançailles de manière simple, sans passer par un notaire. L'objectif n'est pas de compliquer la vie des couples, mais de les protéger.
Consigner les fiançailles, ça peut éviter des situations douloureuses et protéger les personnes vulnérables, surtout les femmes.
On passe maintenant à l'inclusion des personnes handicapées. La consolidation des garanties matrimoniales pour les personnes handicapées.
Une proposition qui veut faciliter l'accès au mariage pour les personnes handicapées, les protéger contre les discriminations.
Benchakoun souligne que les personnes handicapées ont le droit de se marier, de fonder une famille comme tout le monde.
Mais certains s'inquiètent que ça crée des situations compliquées pour les familles.
Benchakoun rappelle que la réforme prévoit d'accompagner les personnes handicapées et leurs familles pour les aider à surmonter les difficultés.
L'inclusion des personnes handicapées, c'est une question de justice sociale, de respect pour la dignité humaine.
On aborde maintenant la durée des procédures de divorce, la limitation à 6 mois du délai de traitement des affaires de divorce.
Une proposition qui veut accélérer les procédures de divorce, les rendre moins chères et moins stressantes.
Benchakoun souligne que les procédures de divorce sont souvent longues et douloureuses.
Mais certains craignent que ça conduise à des décisions trop rapides, que les droits des personnes ne soient pas assez protégés.
Benchakoun rappelle que la réforme permet de prolonger le délai si nécessaire.
L'objectif, c'est de simplifier les procédures sans sacrifier la justice.
On passe maintenant aux Marocains résidant à l'étranger. La possibilité pour eux de se marier sans la présence de deux témoins musulmans.
Une proposition qui veut simplifier les démarches pour les MRE qui vivent souvent dans des pays où c'est difficile de trouver deux témoins musulmans.
La loi doit s'adapter à la réalité de la diaspora marocaine.
Mais certains craignent que ça porte atteinte au caractère religieux du mariage.
Ben Chakroun rappelle que le mariage est avant tout un acte civil, accessible à tous les Marocains.
Cette mesure ne remet pas en cause la validité religieuse du mariage qui relève de la liberté de conscience.
Et enfin, on arrive au dernier point de la réforme, la création de structures de médiation et de conciliation pour résoudre les conflits familiaux.
Une proposition qui veut favoriser le dialogue et la recherche de solutions amiables avant d'aller au tribunal.
L'idée, c'est de calmer les tensions, permettre aux gens de s'exprimer et de trouver des solutions qui conviennent à tous et surtout de préserver la famille.
Une approche humaine qui met l'humain au cœur des choses, Ben Chakroun insiste sur l'importance de la médiation, pas seulement pour les divorces, mais pour tous les conflits familiaux.
Mais est-ce que ces structures auront les moyens de leurs ambitions? Est-ce qu'elles auront assez de crédibilité?
C'est une question que pose Ben Chakroun.
Il faut mettre en place un cadre solide, former des médiateurs compétents et garantir l'accès à la médiation pour tous.
Et il faut sensibiliser les gens à la médiation, leur faire comprendre que chercher un accord à l'amiable, ce n'est pas une faiblesse. On continue notre analyse avec une proposition qui veut simplifier le divorce quand les deux sont d'accord. Ben Chakroun explore l'idée d'un divorce par un simple contrat, sans passer par les tribunaux.
C'est assez radical comme idée. Surtout qu'au Maroc, le divorce, c'est souvent vu comme un échec, quelque chose de douloureux. Mais pour certains couples, ça pourrait être une solution plus paisible, plus respectueuse de leur choix.
Oui, c'est ça. Imaginez, fini les procès, les avocats, les délais, juste un contrat clair qui dit qui garde quoi, et c'est fini.
Ça a l'air simple comme ça. Mais est-ce que ça risque pas de banaliser le divorce ? De fragiliser le mariage? C'est une question que Ben Chakroun pose dans son analyse.
Oui, c'est sûr. Certains pensent que ça va encourager les divorces sur un coup de tête sans réfléchir aux conséquences. Ils s'inquiètent pour les enfants, pour la stabilité des familles, pour la société en général.
Des inquiétudes qu'il faut prendre au sérieux. Ben Chakroun nous dit bien, la réforme ne doit pas détruire la famille qui est la base de la société marocaine.
Bien sûr, il faut trouver un équilibre, moderniser la loi sans tout casser. Et c'est ça qui est intéressant dans ce débat. Ça nous fait réfléchir à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, pour l'avenir du Maroc.
Et si on regardait la dernière proposition de Ben Chakroun, celle qui parle de créer des lieux de médiation pour résoudre des conflits familiaux, l'idée c'est de privilégier le dialogue, la recherche de solutions à l'amiable.
Oui, une approche plus douce qui permet de préserver les liens familiaux. Au lieu de se battre devant les juges, les couples pourraient parler avec des médiateurs, des professionnels qui savent écouter, négocier, trouver des compromis.
Le but, c'est d'apaiser les tensions, de laisser chacun s'exprimer et de trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Et surtout, de protéger la famille qui souffre beaucoup à cause des conflits et des procès.
C'est une belle idée qui met l'humain au centre. Ben Chakroun dit que la médiation, c'est important, pas seulement pour les divorces, mais pour tous les problèmes de famille. Les héritages, la garde des enfants, la communication entre parents et enfants.
C'est une vision très large qui veut développer une culture du dialogue, de la compréhension dans les familles et dans la société marocaine. Mais est-ce que ces lieux de médiation auront les moyens de faire tout ça? Est-ce que les gens vont leur faire confiance? Est-ce qu'ils auront plus de poids que les tribunaux?
Ben Chakroun pose ces questions dans son analyse. Il dit qu'il faut un cadre légal solide, des médiateurs bien formés et impartiaux, et que la médiation soit accessible à tous, riches ou pauvres, où qu'ils habitent.
Il faut expliquer aux gens ce qu'est la médiation, leur faire comprendre que ce n'est pas un signe de faiblesse de chercher un accord à l'amiable, au contraire, c'est une marque de sagesse.
Voilà, on a fait le tour des 18 points de la réforme de la Moudawana, comme Ben Chakroun les présente dans son livret. C'est un document vraiment utile qui nous aide à réfléchir aux problèmes de la famille marocaine aujourd'hui et aux enjeux de la modernisation du code de la famille.
Un débat passionnant qui nous touche tous parce qu'il parle de la famille, du couple, de l'éducation des enfants, de la place des femmes, de l'avenir du Maroc. On espère que ce deep dive vous a aidé à mieux comprendre ce débat et à vous faire votre propre opinion.
C'est en participant au débat, en disant ce que vous pensez, que vous contribuerez à construire un Maroc plus juste, plus égalitaire, plus respectueux de tous.
Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de la réforme de la Moudawana. On se retrouve bientôt pour un nouveau deep dive sur un autre sujet tout aussi passionnant. À bientôt.